Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans une belle région de France, comme toutes les régions de France qui sont belles. Je vous emmène dans le Bordelais. Alors le Bordelais, c'est ses grands crus, ses beaux châteaux, ses grandes vignes, et puis aussi des personnages, de beaux personnages. Pour nous parler de cette région au travers d'une histoire, j'ai le plaisir d'accueillir une romancière que j'ai découvert grâce aux éditions Calman Lévy, avec une écriture élégante, raffinée, fine, et puis elle nous offre aussi une belle histoire avec de beaux personnages. C'est une histoire tendre, mais aussi avec du suspense, vous verrez, c'est une histoire qui nous entraîne à la réflexion et puis aussi de la douceur. Il y a de tout dans ce roman, il y a de tout, il y a surtout de la vie. Bonjour Corinne Javelot.
Bonjour Claudine.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre joli roman Les petits papiers de Marie-Lou aux éditions Calman Lévy. Alors je sais que vous avez écrit plusieurs romans, mais parlez-nous un petit peu de vous. Qui est Corinne Javelot ?
Alors, qui suis-je? Eh bien, je suis une écrivain et je viens donc de publier mon 14e roman,
oui.
Les petits papiers de Marie-Lou.
Oui.
Donc, il est certain que ça commence un petit peu à compter. Je me consacre donc pleinement à l'écriture depuis quelques années déjà. J'aime écrire, en fait, moi, des histoires qui sont fortement campées, voilà, dans des époques ou des univers, qui donne le sentiment donc de découvrir vraiment une région dans son intimité.
Oui.
Je tiens au mot intimité parce que je pense que c'est le lien fort que le lecteur doit entretenir avec le roman.
Oui.
Et cela présente d'autant d'importance en fait que les personnages, le lieu, le cadre du livre. J'aime écrire en fait parce que les personnages me dépassent un petit peu. Je me rends compte qu'ils s'incarnent au fil de l'écriture. Et cette idée de s'effacer derrière des situations comme ça ou des caractères que je n'aurais pas même imaginé au départ, et bien ça c'est absolument fascinant et je me suis prise au jeu de tout cela.
Ben, c'est vrai que votre livre force à l'intimité mais aussi à la tendresse, à la crainte aussi aux questions parce qu'il y a du suspense, on va voir, on va dérouler ça, on pourra pas tout raconter, on va tourner un petit peu autour des choses parce qu'il faut laisser le soin aux auditrices et aux auditeurs de découvrir l'histoire et l'aventure. Alors il y a de très beaux personnages dans ce livre, alors c'est dans le Bordelais dans les années 70, il y a Marie-Lou Beltrane avec ses deux filles, Dora et Luce.
C'est sa maman, en fait. Luce, c'est la maman.
C'est la maman, oui, voilà.
Voilà, Dora, et donc sa petite fille.
Sa petite fille, voilà. Et donc, ces femmes-là, ben, elles tiennent une auberge, l'auberge du bonheur.
Il y en a alors, en fait, c'est Marie-Lou qui est serveuse à l'auberge du bonheur. Elle veut, en fait, acquérir son indépendance financière.
Oui.
On est à une époque, si vous voulez, où on est dans les années 60, au début des années 70, donc c'est une jeune femme assez libre, émancipée. Mmh. Et justement, elle tient à son autonomie financière. C'est la raison pour laquelle elle accepte de travailler en tant que serveuse pour se démarquer un petit peu du contexte familial, puisqu'elle a la chance de vivre dans le quartier des Chartrons.
Les Chartrons
à Bordeaux. Qui est vraiment un quartier historique très réputé, c'était celui des négociants en vin depuis tous les temps en fait, les grands chais sur les bords de la Garonne, les dynasties qui gouvernaient le commerce du vin étaient établies à cet endroit, et elle a eu la chance quand même d'avoir des ancêtres qui eux étaient maîtres tonneliers, et donc avaient acquis déjà un beau patrimoine, on va dire, dont cette maison rue Notre-Dame, quartier des Chartrons. Donc, disons qu'elle n'est pas, financièrement, elle n'est pas véritablement dans le besoin, mais elle tient à son indépendance financière vis-à-vis de sa mère. C'est aussi pour un petit peu donner l'état d'esprit des années 70.
Oui.
À ce moment-là, bon, c'est vrai que les personnages sont vraiment bien dans leur époque, je dirais.
Oui. Alors donc, Dora et Luce sont à cette auberge. Il y en a l'une qui a les doigts verts, on va dire, et puis l'autre qui est la cuisinière, qui se débrouille bien. Donc tout ça fait un joli mélange et une belle histoire, quelque chose qui se tient. Voilà, l'auberge du bonheur. On s'y sent bien. Voilà.
C'est ça, c'est l'occasion de goûter quelques petites spécialités,
Voilà.
disons-le, hein, quelques
Oui.
petites spécialités bordelaises
Bordelaise.
que j'évoque à travers l'intrigue. Personnes qui ne sont pas de la région, c'est aussi intéressant de découvrir un petit peu ce que l'on déguste, en l'occurrence la lamproie à la bordelaise, hein, la
Oui.
lamproie étant un poisson de
Tout à
rivière.
fait, oui.
Qui est servi avec des croûtons aillés et du vin rouge, hein, ça se fait
C'est vrai
beaucoup.
qu'on salive hein, parfois en lisant votre livre, on
Ça se fait
salive.
beaucoup dans la région du Bordelais, ou
Oui.
bien la fameuse entrecôte avec de la sauce au vin
Ah
rouge,
oui,
à
bah ça,
l'échalote.
je vous
Voilà,
avoue
ce sont
qu'on
très
a, on a
caractéristiques.
salivé, j'ai eu plus d'une fois envie de boire un verre de vin en lisant
Ah,
votre livre.
écoutez, c'est une bonne chose, c'est bon signe aussi, hein.
Voilà, c'est bon signe, tout à
Et
fait.
tous les sens sont en éveil.
Absolument. Alors, il y a une histoire de poupée. Dans votre roman, une histoire de poupée qui a été mise en cas, qui a été offert, qui a été offert, et cette poupée, elle renfermerait une énigme, un mystère. Il va y avoir des manifestations un petit peu curieuses, et visiblement cette poupée a tendance à un petit peu affoler la population, c'est-à-dire les esprits s'échauffent un petit peu. Il y a tout un mystère et un suspect autour de cette poupée. Il va y avoir, bien sûr, c'est un secret de famille, hein, finalement, le suspense va tourner autour de ça. Comment est venue l'idée? Parce que ça, c'est original, le côté un petit peu extraordinaire par rapport à une poupée.
C'est ça. Alors, si vous voulez, en fait, moi, à chaque fois que je me plonge, en fait, dans un cadre particulier, dans un lieu particulier, je vais toujours essayer de trouver un angle qui n'a pas été abordé, une histoire qui n'a pas été écrite, qui sorte un peu des sentiers battus, pour que le lecteur soit un peu surpris. Alors là, le quartier des Chartrons, justement, à Bordeaux, il faut savoir aussi que ce sont des petites ruelles qui font un peu ambiance village,
Un
et il y
peu
a beaucoup
moyenâgeuse, un
d'antiquaires, hein.
petit peu moyenâgeuse aussi.
Oui,
Oui.
enfin pas tout à fait, parce que ça garde quand même bien les particularités, si vous voulez, d'un lieu sur les bords de Garonne
D'un petit
ou avec ses
village,
grands chais.
d'un petit
Mais il y a
village
aussi beaucoup d'antiquaires, et
d'antiquaire,
c'était
oui.
là où je voulais en venir.
Oui.
Voilà, il y a beaucoup de boutiques d'antiquaires, et bien sûr, comme vous le savez, les antiquaires recèlent tout un tas
De
d'objets
trésors, de trésors, oui.
hétéroclites tout à fait extraordinaires. Et je crois que l'idée de cette poupée m'est apparue à ce moment-là, au fil de l'une de mes promenades.
Oui.
Et là, j'ai eu envie. Vous savez, c'est toujours très mystérieux l'inspiration. On ne sait jamais vraiment comment ça arrive.
Oui.
Souvent, ça tient à pas grand-chose. Et là, probablement une poupée dans une vitrine, tout à fait possible. Et à partir de là, si vous voulez, bon, moi, je savais que les poupées hantées existaient, hein,
Oui,
déjà. Hein.
oui.
Il y a des gens qui travaillent avec la magie noire. Après, on y croit ou on n'y croit
Bien
pas,
sûr,
ça c'est autre chose. Mais
bien sûr.
il y a effectivement des gens qui travaillent avec la magie noire et la magie blanche, hein, on peut le dire. Et les poupées, en fait, sont en quelque sorte
Des
des
vecteurs, des
réceptacles de
réceptacles,
bons
des
et de mauvais
vecteurs.
esprits. Et elles peuvent promettre vengeance, malédiction, protection, vous voyez, tout un tas de ce genre de choses, quoi, finalement. Et là, comme à travers ce livre, il y a aussi un personnage, sans vouloir trop en dévoiler, qui a un esprit perdu, un peu,
Oui,
on peut le
oui.
dire, hein, puisque qui n'a pas que des bonnes idées, eh bien, ça va être en quelque chose, poupée va être en quelque sorte un déclencheur à travers cette histoire de famille. Cette poupée qui va être particulièrement remarquée par la petite fille, en fait,
Oui.
de Luce,
De
soit la
Luce.
fille de Marie-Lou,
De
en fait, dans
Marie-Lou,
une vitrine, et cette poupée, effectivement, va faire son entrée dans la maison des Beltran et va changer tout à fait le quotidien, parce qu'à partir de là, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien, des phénomènes étranges vont commencer à se dérouler dans la maison, en fait. Et on va se rendre compte qu'effectivement, cette poupée-là n'a rien d'anodin.
Non. Et alors justement, par rapport à cette poupée, dans ces cas-là, on se replonge un peu dans le passé, dans le secret de la famille, la saga. Il y a deux personnages dont on parle, hein. Il y a l'oncle et le père, Josué et Ferréol, qui sont morts durant la guerre dans leur vigne, en héros, face à l'occupation allemande. Donc tout ça aussi, on se pose tout un tas de questions. Le mystère s'épaissit un peu plus. Et c'est vrai que c'est bien fait parce que l'histoire de cet oncle, de ce père mort dans leur vigne face à l'occupant, on imagine tout un tas de choses.
C'est ça, on imagine tout un tas de choses Et en même temps, on se met aussi un petit peu dans l'esprit des années 70. C'est une façon donc d'introduire aussi les modes de pensée de cette période-là, mm-hmm. où on cultivait beaucoup le non-dit par mm. rapport à tout ce qui se rapportait à l'occupation.
Oui.
Vous savez, c'est la mère de Marie-Lou, Luce. C'est mm. vrai que c'est vraiment une personne qui ne parle absolument pas, qui ne se confie pas
non.
à sa fille.
Mm-hmm.
Et donc, elle est au courant, bien évidemment, de certains événements qui mmh. se sont déroulés pendant la période de l'occupation.
Mais elle ne dit rien.
Il est vrai que tout cela va rester longtemps caché.
Enfoui.
Et finalement, il va falloir la force du quotidien et des événements du quotidien pour qu'elle finisse par accepter de livrer quelques informations à Marie-Lou.
Alors, on va pas tout dérouler, non. bien évidemment, il faut pas, mais c'est vrai que la poupée, on le disait, avec le déclencheur de tout ça, donc le passé quelque part va ressurgir, on va oser en parler un petit peu, mais on s'aperçoit aussi que la force du non-dit, la force du secret dans les années 70, finalement c'est peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans ces provinces où il ne faut pas dire les choses, il ne faut pas déranger, les secrets doivent rester des secrets. C'est très bien décrit dans votre livre, on sent le poids du secret en province, vous savez, ces maisons, ces grosses maisons, ou à Bordeaux, les petites rues avec ces pavés, ou ces petits villages, où surtout on ne doit rien dire, ne pas faire de bruit, on parle que de choses dont on ne peut parler, le reste on ne dit rien.
Bien sûr, surtout que pour cette région donc du Bordelais, Saint-Émilion, des vignobles,
oui.
eh bien tout cela a été extrêmement lourd à porter parce qu'il y avait les Weinführer,
oui.
c'est-à-dire toute cette autorité allemande qui était déléguée dans la région justement autour des vignobles, et cela a suscité bien évidemment de drôles d'histoires, on peut le dire.
Oui, c'est vrai. Alors, on le disait, cette poupée toujours. Hein. En fait. Il y a les personnages, mais cette poupée, c'est vraiment un des éléments majeurs du livre, parce que il n'y aurait pas eu cette poupée, bien la vie, on aurait pu penser continuer comme ça, calmement, avec ses bons et ses mauvais moments. Mais la poupée va changer le cours de la vie et le destin des personnages.
Exactement.
Alors, c'est difficile de pas dire les choses, mais on s'aperçoit aussi qu'au travers de cette histoire, on disait Marie-Lou, c'est une jeune femme émancipée, moderne. On est dans les années 70, donc il y a eu mai 68. Hein, n'interdisons pas d'interdire.
C'est ça.
Voilà. Et en même temps, on sent aussi, comment dirais-je, le poids des us et coutumes, de la culture. Certes, il faut évoluer. Certes, il y a l'émancipation, mais il y a aussi le poids de la culture. Et puis parce qu'on est aussi en province, donc il faut aussi rester à sa place. C'est la compromission entre les deux est difficile.
C'est ça, c'est difficile. Et puis en même temps, bon, il faut savoir que Marie-Lou, elle va aussi bénéficier, on va dire, de la présence de son cousin Clovis,
oui.
qui est un homme qui change tout. Ce que je veux dire par là, c'est que lui, il peut effectivement se permettre, on va dire, une certaine
liberté
avancée dans les mentalités et dans les états d'esprit, qui va profondément aussi changer la famille, puisque on peut le dire quand même, bon, Clovis, donc le cousin de Marie-Lou, lui, il rêve de partir au Népal pour expérimenter la vie en communauté.
Mmh.
Donc c'est vrai que là, ça va changer beaucoup de choses dans l'esprit également de Luce et de Marie-Lou, puisqu'il va revenir du Népal avec une idée finalement sur la vie et le mouvement hippie qui va être totalement bouleversé.
Mmh.
Ça ne correspond pas du tout à la
mentalité.
À l'idée qu'il s'en était faite au départ.
C'est vrai.
Voilà.
Alors,
il se rend compte que finalement, la vie, souvent en communauté, ça va l'orienter vers une culture plutôt décadente, et que bon, tout ce qui est abus justement de ces substances illicites, eh bien, ça entraîne plutôt la déchéance, et on va voir justement le bouleversement d'un personnage dans les années 70 qui va prendre conscience aussi de certaines choses. Il va revenir avec sorte d'anecdotes qui sont navrantes sur le sujet, on n'en dira pas plus, hein.
Oui.
Mais en même temps, on se rend compte, il va se rendre compte que l'ordre qui au départ lui faisait peur avant qu'il ne parte au Népal, eh bien, il va être encore plus déstabilisé finalement par le désordre.
Mm-hmm. Ça fait.
Qu'il a connu là-bas, sur place au Népal.
Oui. Eh bien, écoutez, j'espère qu'il n'y aura ni ordre ni désordre, mais simplement du plaisir pour cette petite pause musicale. Et nous nous retrouvons tout de suite après.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ses deux ailes avec Corinne Javelot pour son dernier roman Les petits papiers de Marie-Lou aux éditions Calman Lévy. Alors nous parlions de Clovis, donc le cousin de Marie-Lou qui est parti au Népal pour vivre une expérience. Alors justement, c'est un personnage aussi intéressant parce qu'il y a un réel antagonisme entre la vie dans le Bordelais, dans les vignobles ou à cette auberge et puis lui qui s'en va. Mais ça correspond aussi à un moment de la société où il y avait une émancipation de la jeunesse, où chacun voulait un petit peu être libre, faire autre chose et découvrir le monde. Il y a deux mondes qui se rencontrent, mais c'est deux mondes aussi très différents. Mais ça a été bien cultivé aussi dans le livre.
Mais écoutez, j'ai essayé, tout du moins je voulais justement introduire un personnage qui soit un peu confronté à une situation de l'extrême, on va le dire, puisque... Son éducation, c'est quand même une certaine, il y avait quand même une certaine rigueur, puisque Luce a élevé à la fois sa fille Marie-Lou, mais également Clovis. Donc finalement, ses deux enfants ont été sous sa coupe.
Oui.
J'explique pourquoi à travers le livre. Et finalement, elle aussi, je pense, la mère Luce va avoir une image peut-être un petit peu modifiée de la réalité de la jeunesse des années 70, parce que Clovis est quand même très avant-gardiste.
Oui. Ah oui.
Et elle va finir par l'accepter, même si elle avait des valeurs quand même assez rigoristes au départ.
Justement, ce sont des générations et des valeurs qui s'affrontent aussi.
Mais oui, totalement.
Alors,
et c'est ce qui est intéressant justement à aborder, je pense, dans un livre.
Oui, tout à fait. Des personnages, des idées, des mouvements intéressants, c'est certain. Alors, j'allais vous demander pourquoi le Népal, parce que le Népal correspond à ce moment-là, à cette époque-là, à justement une forme de liberté, le mouvement hippie qui va être très important à ce moment-là. Et justement, on casse les codes, on casse chose.
On casse les codes. Bon, je crois que Katmandou, c'est tout à fait un mythe, un symbole hein, qui a traversé vraiment les temps. Et puis, pour tout vous dire, j'ai eu la chance aussi de voyager au Népal il y a quelques années. Et il est certain que lorsqu'on voyage dans un lieu, on est mieux à même, je pense aussi, de retransmettre les émotions, les couleurs, les détails. Vous voyez, des choses quand même assez fortes. Et là, ça fait quand même partie des destinations... On casse totalement les codes quand on part au Népal. On a l'impression vraiment de revenir au Moyen-Âge pour nous. Et c'est vrai que tout ça, j'ai eu envie aussi de le faire passer à travers le roman. C'était pour moi important.
Alors, il y a une réflexion que je me suis faite tout au long de la lecture, justement, par rapport à ces deux mondes, quelque part, qui s'affrontent, qui se rencontrent et qui s'affrontent en même temps. Il part au Népal et puis et en même temps cette réflexion aussi sur la vie. Bon, on décide de casser les codes, on décide de changer les choses. Et puis donc il y a toujours cette poupée qui est là. Alors c'est le mystère, c'est on va chercher dans le passé. Et puis le Népal, c'est aussi l'inconnu, c'est le mystère. Donc c'est il y a deux choses aussi. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire il y a la poupée qui fait naître des choses ou poser des questions. Et puis, il y a le Népal aussi, c'est un petit peu un monde mystérieux, un monde autre. Et finalement, ces deux suspens, ces deux mystères, ces deux énigmes.
C'est ça, ce sont deux énigmes. Et finalement, on va voir que tout cela va se regrouper.
Oui.
Puisqu'il y a un lien aussi avec un autre personnage que nous n'avons pas encore évoqué à travers notre discussion, c'est Virgile. Qui est cet autre personnage qui a lui aussi un lien avec le Népal. Ce que l'on découvrira un petit peu plus tard, puisqu'il est aussi beaucoup question d'antiquaires, de commerce. Et effectivement, cet autre personnage fait du commerce de statuettes avec le Népal.
Et le lien, voilà. On verra comment les choses se lient entre elles. Comment avez-vous trouvé, je dirais, la genèse des personnages, leur vie propre, leurs sentiments? Est-ce que ça s'est imbriqué naturellement au fur et à mesure d'une réflexion, d'une promenade? Comment ça s'est passé?
Alors, en fait, vous savez, moi, je suis une personne qui travaille beaucoup à l'intuition. C'est-à-dire qu'au départ, mes personnages ne sont pas vraiment incarnés lorsque je commence à travailler. Et ils vont m'apparaître en quelque sorte en situation. Et dans un premier temps, je me documente beaucoup au fur et à mesure, selon mes besoins, pour leur donner corps, bien évidemment. Et après, je me rends compte qu'au bout d'un certain temps, ils vont finir par cultiver leur vie propre. Alors ça, me demandez pas pourquoi, parce que c'est vrai que pour moi aussi, c'est presque un mystère. Et c'est au fur et à mesure, finalement, que je m'approprie l'histoire au fur et à mesure que je l'écris. Je lui donne une certaine musique personnelle. Et au fil de mes promenades, souvent, lorsque je suis un petit peu en peine, parce qu'il m'arrive parfois d'être en peine, d'être un petit peu bloquée, je ne sais pas encore comment la suite va s'établir, eh bien, je pars marcher pour m'oxygéner l'esprit. Et je me rends compte que généralement, ça me donne des idées. Ça va me donner comme une pièce manquante qui pourrait me manquer. C'est comme un puzzle, en quelque sorte.
D'accord, je vois.
Partir de là, le personnage, bon, effectivement, va pouvoir poursuivre sa route avec encore plus de véracité, parce que je ne sais pas, quelque chose s'est débloqué en moi. Et à partir de là, si vous voulez, les choses s'imbriquent beaucoup plus naturellement.
D'accord. Alors, C'est un livre, j'ai envie de dire, de femmes. Il y a quand même, il y a des femmes fortes, il y a des personnages assez forts. Il y a effectivement, on le disait, il y a des hommes aussi, ceux qui sont là et ceux qui ont disparu. Mais avant tout, c'est une intimité, une vie de femme avec, on disait, cette liberté, ce modernisme. On veut aller de l'avant, surtout de la part de Marie-Lou. Mais on sent cette force vive de la femme, des femmes qui ont un nouvel univers. On veut avancer, on veut aller de l'avant, on veut
C'est ça.
plus.
C'est aussi ce que j'ai eu plaisir à essayer de construire, parce que je pense en plus que c'est une époque vraiment charnière.
Oui.
C'est certainement la raison pour laquelle aussi j'ai choisi ces années-là,
Oui.
parce que ce sont de véritables années de bouleversement.
Mmh.
On va vraiment de l'avant, quelque chose change, mais change profondément dans les mentalités, dans l'état d'esprit. La vie ne sera plus jamais la même à partir du début des années 70,
Oui.
pour diverses raisons, bien
Oui.
sûr.
Ben comme à chaque grand bouleversement, soit
Oui.
des guerres, des maladies et des épidémies, à chaque grand bouleversement. Mais c'est justement bien retranscrit dans le livre, c'est-à-dire que on sent, on voit l'avant, hein, surtout au travers des deux personnages qui sont morts dans leur vigne à cause de la guerre, et puis l'après, c'est-à-dire que une forme de, entre guillemets, plus jamais ça, mais plus jamais ça, il faut cultiver justement la vie et les choses
Et oui.
au-delà du
Voilà.
suspense et de l'histoire de la famille. Mais on sent chez vous aussi cet attrait, cet engouement pour le secret familial, pour la saga familiale.
Et vous savez, je pense que finalement, énormément de familles cultivent des secrets. Et je me rends compte, vous savez, lors de mes rencontres avec les lecteurs sur les salons du livre ou dans les librairies,
Oui,
les gens parlent quand même,
bien sûr.
les gens se confient un petit peu, les gens donnent un petit peu libre cours à leurs pensées, à ce qui les préoccupe, etc. Et je me rends compte qu'il y a énormément, énormément de personnes qui sont animées par des curiosités par rapport à leur famille. Il y a beaucoup de questionnements par rapport au passé, par rapport. Donc il y a des secrets dans pratiquement toutes les familles.
Oui, bien sûr.
Donc c'est vraiment un sujet universel. Et je crois que là, il y a vraiment une mine d'or pour le romancier aussi.
C'est certain, c'est
Oui.
certain. Et puis l'originalité aussi de votre roman, c'est cette poupée hein, qui, on va le dire, on
Oui.
le disait, qui est le centre de beaucoup de choses et qui va amener à des tas de ramifications au-delà même, on le disait, de Bordeaux. On sent aussi au travers du livre un attachement particulier à cette région, à la ville, aux gens, au terroir de votre part.
Ben vous savez, je suis une amoureuse de la Nouvelle-Aquitaine, au
Oui,
sens large,
je peux
c'est-à-dire toute
comprendre.
cette région
Oui.
qui, bon, c'est vrai que moi-même, je suis originaire Dordogne, Charente, Haute-Vienne, bon, dans ces coins.
Des régions
Mais
magnifiques,
si vous
oui.
voulez, toute la culture du Sud-Ouest me fascine. Il y en a d'autres aussi, bien évidemment, mais j'y trouve vraiment mon compte parce que je me sens proche aussi de l'état d'esprit, des modes de vie. Du climat, de la gastronomie, je pense que c'est un ensemble de choses.
Tout à fait.
Et c'est vrai que tout ça, ça me porte en quelque sorte et ça me donne envie aussi d'aller plus loin peut-être aussi, d'explorer des sentiers qui n'auraient pas encore été explorés. Enfin, tout du moins, j'essaye. Et en tous les cas, j'y trouve ma source d'inspiration. Eh oui.
Est-ce que Marie-Lou pourrait être une fille d'aujourd'hui?
J'ai beaucoup de mal à cerner l'esprit d'aujourd'hui, surtout avec la crise très grave que nous
Oui, c'est
traversons
sûr.
en ce moment.
C'est sûr.
Beaucoup de mal à peut-être c'est trop frais, trop neuf, vous
Oui,
voyez.
oui.
On n'a pas le recul suffisant
Oui.
peut-être aussi pour analyser les choses. Je pense que ça, on pourrait peut-être le dire dans quelques années. Mais en revanche, une fille des années 80, oui.
Oui.
Peut-être même une fille des années 90, mais au-delà, j'ai beaucoup de mal.
Oui, c'est disons jusqu'à 2000, jusqu'à l'an 2000. Au-delà, après,
Oui,
c'est plus
peut-être.
imprécis, c'est plus
Oui.
aléatoire. Alors, j'imagine que une romancière qui a écrit beaucoup de livres, vous avez toujours des tas de choses dans vos malles. Vous avez d'autres idées pour écrire sur le terroir, sur cette belle Nouvelle-Aquitaine?
Alors, vous savez, souvent, encore une fois, c'est très amusant, mais une idée tient vraiment à pas grand-chose.
Oui.
C'est-à-dire que c'est vraiment au fil d'une de mes promenades, bon, dans un lieu bien évidemment que je vais trouver très attachant parce
Oui.
qu'il a aussi une forte personnalité, un fort caractère. Là, c'est le cas du quai des Chartrons, mais aussi, oui. Et aussi le cas de Saint-Émilion. Hein, j'en oui. ai pas
très beau, très beau village,
là,
très très beau village. Oui.
C'est un lieu vraiment très attachant.
Oui, très attachant.
C'est très
beau.
Ville, médiévale,
oui,
hein, qui, avec sa jurade des vins, oui. avec sa confrérie qui existe depuis plus de 800
ans, oui.
perpétue et vraiment des valeurs de partage.
Des traditions,
des vins,
et des belles traditions. Oui.
Voilà.
Oui.
Et c'est vrai que souvent, voilà, ça n'est de pas grand-chose. Je me promène et je vais avoir un ou deux personnages qui vont s'incarner. J'ai le sentiment de les connaître déjà un petit peu. Et mm-hmm. après, c'est comme si j'allais les suivre.
Mm-hmm. Eh bien, écoutez, nous serons ravis toujours de vous suivre. En tout cas, Corinne Javelot, ici, à ses deux ailes. Votre roman, en tout cas, est très agréable. C'est une belle écriture, disais-je, fine et rassurante aussi. On a envie de se laisser envelopper par les petits papiers de Marie-Lou aux éditions Calmann-Lévy. Je vous remercie infiniment. C'était très agréable de parler avec vous de ce beau roman. Et puis, je vous souhaite une belle suite. Et puis, prenez soin de vous. Quant à nous, nous retrouvons une autre fois pour un autre livre, toujours pour délivrer vous. Bonne lecture et prenez soin de vous. Merci.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Bon.